Son visage parut alors à sa femme plus étincelant sous le feu du génie qu'il ne l'avait été sous le feu de l'amour, et elle pleura en l'écoutant. « J'ai combiné le chlore et l'azote. J'ai décomposé plusieurs corps, jusqu'ici considérés comme simples. J'ai trouvé de nouveaux métaux. « Tiens, » dit-il en voyant les pleurs de sa femme, « j'ai décomposé les larmes. Les larmes contiennent un peu de phosphate de chaux, de chlorure de sodium, du mucus et de l'eau. » Il continua de parler, sans voir l'horrible convulsion qui travailla la physionomie de Joséphine. Il était monté sur la science, qui l'emportait en croupe, elle déployée, bien loin du monde matériel. « Cette analyse, ma chère, est une des meilleures preuves du système de l'absolu. Toute vie implique une combustion. Selon le plus ou moins d'activité du foyer, la vie est plus ou moins persistante. Ainsi, la destruction du minéral est indéfiniment retardée, parce que la combustion y est virtuelle, latente ou insensible. Ainsi, les végétaux, qui se rafraîchissent incessamment, par la combinaison d'où résulte l'humide, vivent indéfiniment. Et il existe plusieurs végétaux contemporains du dernier cataclysme. Mais toutes les fois que la nature a perfectionné un appareil, que dans un but ignoré, elle y a jeté le sentiment, l'instinct ou l'intelligence, 3 degrés marqués dans le système organique, ces 3 organismes veulent une combustion, dont l'activité est en raison directe du résultat obtenu. L'homme, qui représente le plus haut point de l'intelligence et qui nous offre le seul appareil d'où résulte un pouvoir à demi-créateur, la pensée, est, parmi les créations zoologiques, celle où la combustion se rencontre dans son degré le plus intense et dont les puissants effets sont en quelque sorte révélés par les phosphates, les sulfates et les carbonates que fournit son corps dans notre analyse. Ces substances ne seraient-elles pas les traces que laisse en lui l'action du fluide électrique, principe de toute fécondation? L'électricité ne se manifesterait-elle pas en lui par des combinaisons plus variées qu'en tout autre animal? N'aurait-il pas des facultés plus grandes que toute autre créature pour absorber de plus fortes portions du principe absolu, et ne les assimilerait-il pas pour en composer dans une plus parfaite machine sa force et ses idées? Je le crois. L'homme est un matra. Ainsi, selon moi, l'idiot serait celui dont le cerveau contiendrait le moins de phosphore ou tout autre produit de l'électromagnétisme. Le fou, celui dont le cerveau en contiendrait trop. L'homme ordinaire, celui qui en aurait peu. L'homme de génie, celui dont la cervelle en serait saturée à un degré convenable. L'homme constamment amoureux, le portefeuille, le danseur, le grand mangeur, sont ceux qui déplaceraient la force résultante de leur appareil électrique. Ainsi, nos sentiments, assez, Balthazar. Tu m'épouvantes. Tu commets des sacrilèges. Quoi? Mon amour serait de la matière éthérée qui se dégage, dit Claès, et qui sans doute est le mot de l'absolu. Songe donc que si moi le premier, si je trouve, en disant ces mots, sur 3 tons différents, son visage monta, par degrés, à l'expression de l'inspiré. Je fais les métaux, je fais les diamants, je répète la nature, s'écria-t-il. En seras-tu plus heureux? Cria-t-elle avec désespoir. Maudite science, maudit démon, tu oublies, Claès, que tu commets le péché d'orgueil dont fut coupable Satan. Tu entreprends sur Dieu. Oh, oh, Dieu! Il le nie, s'écria-t-elle en se tordant les mains. « Claès, Dieu dispose d'une puissance que tu n'auras jamais. » À cet argument, qui semblait annuler sa chère science, Il regarda sa femme en tremblant. « Quoi ? » dit-il. « La force unique, le mouvement. Voilà ce que j'ai saisi à travers les livres que tu m'as contrainte à lire. Analyse des fleurs, des fruits, du vin de Malaga. Tu découvriras certes leurs principes, qui viennent, comme ceux de ton cresson, dans un milieu qui semble leur être étranger. Tu peux, à la rigueur, les trouver dans la nature. Mais en les rassemblant, feras-tu ces fleurs, ces fruits, le vin de Malaga? Auras-tu les incompréhensibles effets du soleil? Auras-tu l'atmosphère de l'Espagne? Décomposer n'est pas créer. Mais si je trouve la force coercitive, je pourrai créer. Rien ne l'arrêtera, cria Pepita d'une voix désespérante. Oh mon amour, il est tué, je l'ai perdu. Et ses yeux animés par la douleur et par la sainteté des sentiments qu'ils épanchaient, brillèrent plus beaux que jamais à travers ses pleurs. Oui, reprit-elle en sanglotant, tu es mort à tout. Je le vois, la science est plus puissante en toi que toi-même, et son vol t'a emporté trop haut pour que tu redescendes jamais à être le compagnon d'une pauvre femme. Quel bonheur puis-je t'offrir encore? Ah, je voudrais, triste consolation, croire que Dieu t'a créé pour manifester ses œuvres et chanter ses louanges, qu'il a renfermé dans ton sein une force irrésistible qui te maîtrise. Mais non, Dieu est bon, il te laisserait au cœur quelques pensées pour une femme qui t'adore, pour des enfants que tu dois protéger. Oui, le démon seul peut t'aider à marcher seul au milieu de ces abîmes sans issue, parmi ces ténèbres où tu n'es pas éclairé par la foi d'en haut, mais par une horrible croyance en tes facultés. Autrement, ne te serais-tu pas aperçu, mon ami, que tu as dévoré 900 000 francs depuis 3 ans? Oh, rends-moi justice, toi, mon Dieu sur cette terre. Je ne te reproche rien. Si nous étions seuls, je t'apporterais à genoux toutes nos fortunes en te disant « Prends, jette dans ton fourneau, fais-en de la fumée, et je rirais de l'avoir voltigé. Si tu étais pauvre, j'irais mendier sans honte pour te procurer le charbon nécessaire à l'entretien de ton fourneau. Enfin, si en m'y précipitant, je te faisais trouver ton exécrable absolu, Claès, je m'y précipiterais avec bonheur. Puisque tu places ta gloire et tes délices dans ce secret encore introuvé. Mais nos enfants, Claès, nos enfants, que deviendront-ils si tu ne devines pas bientôt ce secret de l'enfer? Sais-tu pourquoi venait Pierre Quint? Il venait te demander 30 000 francs que tu dois sans les avoir. Tes propriétés ne sont plus à toi. Je lui ai dit que tu avais ces 30 000 francs afin de t'épargner l'embarras où t'aurais mis ces questions. Mais pour acquitter cette somme, j'ai pensé à vendre notre vieille argenterie. Elle vit les yeux de son mari près de Sumecté et se jeta désespérément à ses pieds, en levant vers lui des mains suppliantes. « Mon ami, s'écria-t-elle, cesse un moment tes recherches. Économisons l'argent nécessaire à ce qu'il te faudra pour les reprendre plus tard, si tu ne peux renoncer à poursuivre ton œuvre. Oh, je ne la juge pas. Je soufflerai tes fourneaux, si tu le veux. Mais ne réduis pas nos enfants à la misère. Tu ne peux plus les aimer. La science a dévoré ton cœur. Ne leur lègue pas une vie malheureuse, en échange du bonheur que tu leur devais. Le sentiment maternel a été, trop souvent, le plus faible dans mon cœur. Oui, j'ai souvent souhaité ne pas être mère, afin de pouvoir m'unir plus intimement à ton âme, à ta vie. Aussi, pour étouffer mes remords, dois-je plaider auprès de toi la cause de tes enfants avant la mienne? Ses cheveux s'étaient déroulés et flottaient sur ses épaules. Ses yeux dardaient 1000 sentiments, comme autant de flèches. Elle triompha de sa rivale. Balthazar l'enleva, la porta sur le canapé, se mit à ses pieds. « Je t'ai donc causé des chagrins ?» lui dit-il avec l'accent d'un homme qui se réveillerait d'un songe pénible. Pauvre Claës, tu nous en donneras encore malgré toi, dit-elle en lui passant sa main dans les cheveux. Allons, viens t'asseoir près de moi, dit-elle en lui montrant sa place sur le canapé. Tiens, j'ai tout oublié, puisque tu nous reviens. Va, mon ami, nous réparerons tout, mais tu ne t'éloigneras plus de ta femme, n'est-ce pas? Dis oui, laisse-moi, mon grand et beau Claës, exercer sur ton noble cœur cette influence féminine, si nécessaire au bonheur des artistes malheureux, des grands hommes souffrants. Tu me brusqueras, tu me briseras si tu veux, mais tu me permettras de te contrarier un peu, pour ton bien. Je n'abuserai jamais du pouvoir que tu me concéderas. Sois célèbre, mais sois heureux aussi. Ne nous préfère pas la chimie. Écoute, nous serons bien complaisants. Nous permettrons à la science d'entrer avec nous dans le partage de ton cœur. Mais sois juste, donne-nous bien notre moitié. Dis, mon désintéressement n'est-il pas sublime ? Elle fit sourire Balthazar. Avec cet art merveilleux que possèdent les femmes, elle avait amené la plus haute question dans le domaine de la plaisanterie, où les femmes sont maîtresses. Cependant, quoiqu'elle parût rire, son cœur était si violemment contracté qu'il reprenait difficilement le mouvement égal et doux de son état habituel. Mais en voyant renaître dans les yeux de Balthazar l'expression qui la charmait, qui était sa gloire à elle, et lui révélait l'entière action de son ancienne puissance qu'elle croyait perdue, elle lui dit en souriant « Crois-moi, Balthazar, la nature nous a fait pour sentir, et quoique tu veuilles que nous soyons des machines électriques, tes gaz, tes matières éthérées n'expliqueront jamais le don que nous possédons. D'entrevoir l'avenir, si, reprit-il, par les affinités, la puissance de vision qui fait le poète et la puissance de déduction qui fait le savant, sont fondées sur des affinités invisibles, intangibles et impondérables, que le vulgaire range dans la classe des phénomènes moraux, mais qui sont des effets physiques. Le prophète voit et déduit. Malheureusement, ces espèces d'affinités sont trop rares et trop peu perceptibles pour être soumises à l'analyse ou à l'observation. Ceci, dit-elle en lui prenant un baiser, pour éloigner la chimie qu'elle avait si malencontreusement réveillée, serait donc une affinité ? Non ! C'est une combinaison. Deux substances de même signe ne produisent aucune activité. Allons, tais-toi, dit-elle. Tu me ferais mourir de douleur. Oui, je ne supporterais pas, cher, de voir ma rivale jusque dans les transports de ton amour. Mais, ma chère vie, je ne pense qu'à toi. Mes travaux sont la gloire de ma famille. Tu es au fond de toutes mes espérances. Voyons. « Regarde-moi !» Cette scène l'avait rendue belle comme une jeune femme. Et de toute sa personne, son mari ne voyait que la tête, au-dessus d'un nuage de mousselines et de dentelles. « Oui, j'ai eu bien tort de te délaisser pour la science. Maintenant, quand je retomberai dans mes préoccupations, eh bien, ma Pépita, tu m'y arracheras. Je le veux !» Elle baissa les yeux et laissa prendre sa main, sa plus grande beauté, une main à la fois puissante et délicate. « Mais je veux plus encore, » dit-elle. « Tu es si délicieusement belle que tu peux tout obtenir. Je veux briser ton laboratoire et enchaîner ta science, » dit-elle en jetant du feu par les yeux. « Eh bien, au diable la chimie !»« Ce moment efface toutes mes douleurs, » reprit-elle. « Maintenant, fais-moi un sourire si tu veux. » En entendant ce mot, les larmes gagnèrent Balthazar. « Mais tu as raison, je ne vous voyais qu'à travers un voile, et je ne vous entendais plus. S'il ne s'était agi que de moi, dit-elle, j'aurais continué à souffrir en silence, sans élever la voix devant mon souverain. Mais tes fils ont besoin de considération, Claës. Je t'assure que si tu continuais à dissiper ainsi ta fortune, le monde ne t'en tiendrait aucun compte, et son blâme retomberait sur les tiens. Ne doit-il pas te suffire, à toi ? Que ta femme ait attiré ton attention sur un danger que tu n'apercevais pas. Ne parlons plus de tout cela, dit-elle en lui lançant un sourire et un regard plein de coquetterie. Ce soir, Mon Claès, ne soyons pas heureux à demi. Le lendemain de cette soirée, si grave dans la vie de ce ménage, Balthazar Claès, de qui Joséphine avait sans doute obtenu quelques promesses relativement à la cessation de ses travaux, ne monta point à son laboratoire et resta près d'elle durant toute la journée. Le lendemain, la famille fit ses préparatifs pour aller à la campagne, où elle demeura 2 mois environ, et d'où elle ne revint en ville que pour s'y occuper de la fête par laquelle Claès voulait, comme jadis, célébrer l'anniversaire de son mariage. Balthazar obtint alors, de jour en jour, les preuves du dérangement que ses travaux et son insouciance avaient apporté dans ses affaires. Loin d'élargir la plaie par des observations, sa femme trouvait toujours des palliatifs aux maux consommés. Des 7 domestiques qu'avait Claès, le jour où il reçut pour la dernière fois, il ne restait plus que le mulquinier, Josette la cuisinière, et une vieille femme de chambre nommée Martha, qui n'avait pas quitté sa maîtresse depuis sa sortie du couvent. Il était donc impossible de recevoir la haute société de la ville avec un si petit nombre de serviteurs. Madame Claès leva toutes les difficultés en proposant de faire venir un cuisinier de Paris, de dresser au service le fils de leur jardinier et d'emprunter le domestique de Pierre Quint. Ainsi, personne ne s'apercevrait encore de leur état de gêne. Pendant 20 jours que durèrent les apprêts, Madame Claès sut tromper avec habileté le désœuvrement de son mari. Tantôt elle le chargeait de choisir les fleurs rares qui devaient orner le grand escalier, la galerie et les appartements, tantôt elle l'envoyait à Dunkerque pour s'y procurer quelques-uns de ces monstrueux poissons, la gloire des tables ménagères dans le département du Nord. Une fête comme celle que donnait Claès était une affaire capitale qui exigeait une multitude de soins et une correspondance active dans un pays où les traditions de l'hospitalité mettent si bien en jeu l'honneur des familles que, pour les maîtres et les gens, un dîner est comme une victoire à remporter sur les convives. Les huîtres arrivaient d'Ostende, les coques de bruyère étaient demandées à l'Écosse, les fruits venaient de Paris. Enfin, les moindres accessoires ne devaient pas démentir le luxe patrimonial. D'ailleurs, le bal de la maison Claès avait une sorte de célébrité. Le chef-lieu du département, étant alors à Douai, cette soirée ouvrait en quelque sorte la saison d'hiver et donnait le ton à toutes celles du pays. Aussi, pendant 15 ans, Balthazar s'était-il efforcé de se distinguer et avait si bien réussi qu'il s'en faisait chaque fois des récits à 20 lieues à la ronde et qu'on parlait des toilettes, des invités, des plus petits détails, des nouveautés qu'on y avait vues ou des événements qui s'y étaient passés. Ces préparatifs empêchèrent donc Claès de songer à la recherche de l'absolu. En revenant aux idées domestiques et à la vie sociale, le savant retrouva son amour-propre d'homme, de flamand, de maître de maison, et se plut à étonner la contrée. Il voulut imprimer un caractère à cette soirée, par quelques recherches nouvelles, et il choisit, parmi toutes les fantaisies du luxe, la plus jolie, la plus riche, la plus passagère, en faisant de sa maison un bocage de plantes rares et préparant des bouquets de fleurs pour les femmes. Les autres détails de la fête répondaient à ce luxe inouï. Rien ne paraissait devoir en faire manquer l'effet. Mais le 29e bulletin et les nouvelles particulières des désastres éprouvés par la Grande Armée en Russie et à la Bérézina s'étaient répandus dans l'après-dîner. Une tristesse profonde et vraie s'empara des Douaisiens qui, par un sentiment patriotique, refusèrent unanimement de danser. Parmi les lettres qui arrivèrent de Pologne à Douai, il y en eut une pour Balthazar. Monsieur de Wierzchownia, alors à Dresde où il se mourait, disait-il, d'une blessure reçue dans un des derniers engagements, avait voulu léguer à son hôte plusieurs idées qui, depuis leur rencontre, lui était survenue relativement à l'absolu. Cette lettre plongea Claès dans une profonde rêverie qui fit honneur à son patriotisme, mais sa femme ne s'y méprit pas. Pour elle, la fête eut un double deuil. Cette soirée, pendant laquelle la maison Claës jetait son dernier éclat, eut donc quelque chose de sombre et de triste. Au milieu de tant de magnificence, de curiosités amassées par 6 générations, dont chacune avait eu sa manie, et que les Douaisiens admirèrent pour la dernière fois. La reine de ce jour fut Marguerite, alors âgée de 16 ans, et que ses parents présentèrent au monde. Elle attira tous les regards, par une extrême simplicité, par son air candide, et surtout par sa physionomie, en accord avec ce logis. C'était bien la jeune fille flamande, telle que les peintres du pays l'ont représentée, une tête parfaitement ronde et pleine, des cheveux châtains, lissés sur le front, et séparés en 2 bandeaux, des yeux gris, mélangés de vert, de beaux bras, un embonpoint qui ne nuisait pas à la beauté, un air timide, mais sur son front haut et plat, une fermeté qui se cachait sous un calme et une douceur apparente. Sans être triste ni mélancolique, elle parut avoir peu d'enjouement. La réflexion, l'ordre, le sentiment du devoir, les 3 principales expressions du caractère flamand, animaient sa figure froide, au premier aspect, mais sur laquelle le regard était ramené par une certaine grâce dans les contours, et par une paisible fierté qui donnait des gages au bonheur domestique. Par une bizarrerie que les physiologistes n'ont pas encore expliquée, elle n'avait aucun trait de sa mère ni de son père, et offrait une vivante image de son aïeul maternel, une coninx de Bruges, dont le portrait conservé précieusement attestait cette ressemblance. Le souper donna quelque vie à la fête. Si les désastres de l'armée interdisaient les réjouissances de la danse, chacun pensa qu'il ne devait pas exclure les plaisirs de la table. Les patriotes se retirèrent promptement. Les indifférents restèrent avec quelques joueurs et plusieurs amis de Claës, mais, insensiblement, cette maison si brillamment éclairée, où se pressaient toutes les notabilités de Douai, rentra dans le silence, et, vers 1 heure du matin, la galerie fut déserte. Les lumières s'éteignirent de salon en salon. Enfin, cette cour intérieure, un moment si bruyante, si lumineuse, redevint noire et sombre, image prophétique de l'avenir qui attendait la famille. Quand les Claës rentrèrent dans leur appartement, Balthazar fit lire à sa femme la lettre du Polonais. Elle la lui rendit par un geste triste. Elle prévoyait l'avenir. En effet, à compter de ce jour, Balthazar déguisa mal le chagrin et l'ennui qui l'accabla. Le matin, après le déjeuner de famille, il jouait un moment dans le parloir, avec son fils Jean, causait avec ses 2 filles occupées à coudre, à broder ou à faire de la dentelle. Mais il se lassait bientôt de ses jeux, de cette causerie. Il paraissait s'en acquitter comme d'un devoir. Lorsque sa femme redescendait après s'être habillée, elle le trouvait toujours assis dans la bergère, regardant Marguerite et Félicie, sans s'impatienter du bruit de leurs bobines. Quand venait le journal, il le lisait lentement, comme un marchand retiré qui ne sait pas comment tuer le temps. Puis il se levait, contemplait le ciel à travers les vitres, revenait s'asseoir et attisait le feu rêveusement, en homme à qui la tyrannie des idées ôtait la conscience de ses mouvements. Madame Claës regretta vivement son défaut d'instruction et de mémoire. Il lui était difficile de soutenir longtemps une conversation intéressante. D'ailleurs, peut-être est-ce impossible entre 2 êtres qui se sont tout dit et qui sont forcés d'aller chercher des sujets de distraction en dehors de la vie du cœur ou de la vie matérielle. La vie du cœur à ces moments et veut des oppositions. Les détails de la vie matérielle ne sauraient occuper longtemps des esprits supérieurs, habitués à se décider promptement. Et le monde est insupportable aux âmes aimantes. 2 êtres solitaires, qui se connaissent entièrement, doivent donc chercher leur divertissement dans les régions les plus hautes de la pensée, car il est impossible d'opposer quelque chose de petit à ce qui est immense. Puis, quand un homme s'est accoutumé à manier de grandes choses, il devient inamusable s'il ne conserve pas au fond du cœur ce principe de candeur, ce laisser-aller qui rend les gens de génie si gracieusement enfants. Mais cette enfance du cœur n'est-elle pas un phénomène humain bien rare chez ceux dont la mission est de tout voir, de tout savoir, de tout comprendre? Pendant les premiers mois, Madame Claes se tira de cette situation critique par des efforts inouïs que lui suggéra l'amour ou la nécessité. Tantôt elle voulut apprendre le tric-trac qu'elle n'avait jamais pu jouer et, par un prodige assez concevable, elle finit par le savoir. Tantôt elle intéressait Balthazar à l'éducation de ses filles en lui demandant de diriger leur lecture. Ses ressources s'épuisèrent. Il vint un moment où Joséphine se trouva devant Balthazar comme Madame de Maintenon en présence de Louis XIV, mais sans avoir, pour distraire le maître assoupi, ni les pompes du pouvoir, ni les ruses d'une cour qui savait jouer des comédies, comme celle de l'ambassade du roi de Siam ou du Sophie de Perse. Réduit, après avoir dépensé la France, à des expédients de fils de famille pour se procurer de l'argent, le monarque n'avait plus ni jeunesse ni succès et sentait une effroyable impuissance au milieu des grandeurs. La royale bonne, qui avait su bercer les enfants, ne sut pas toujours bercer le père, qui souffrait pour avoir abusé des choses, des hommes, de la vie et de Dieu. Mais Claès souffrait de trop de puissance. Oppressé par une pensée qui l'étreignait, il rêvait les pompes de la science, des trésors pour l'humanité, pour lui la gloire. Il souffrait comme souffre un artiste, aux prises avec la misère, comme Samson, attaché aux colonnes du temple. L'effet était le même pour ces deux souverains. Quoique le monarque intellectuel fût accablé par sa force et l'autre par sa faiblesse. Que pouvait Pépita seule contre cette espèce de nostalgie scientifique? Après avoir usé les moyens que lui offraient les occupations de famille, elle appela le monde à son secours en donnant 2 cafés par semaine. À Douai, les cafés remplacent les thés. Un café est une assemblée où, pendant une soirée entière, les invités boivent les vins exquis et les liqueurs dont regorgent les caves dans ce benoît pays, mangent des friandises, prennent du café noir ou du café au lait frappé de glace, tandis que les femmes chantent des romances, discutent leurs toilettes ou se racontent les gros riens de la ville. C'est toujours les tableaux de Mieris ou de Terbourg, moins les plumes rouges sur les chapeaux gris pointus, moins les guitares et les beaux costumes du XVIe siècle. Mais les efforts que faisait Balthazar pour bien jouer son rôle de maître de maison, son affabilité d'emprunt, les feux d'artifice de son esprit, tout accusait la profondeur du mal par la fatigue à laquelle on le voyait en proie le lendemain. Ces fêtes continuelles, faibles palliatifs, attestèrent la gravité de la maladie. Ces branches que rencontrait Balthazar, en roulant dans son précipice, retardèrent sa chute, mais la rendirent plus lourde. S'il ne parla jamais de ses anciennes occupations, s'il n'émit pas un regret, en sentant l'impossibilité dans laquelle il s'était mis de recommencer ses expériences, il eut les mouvements tristes, la voix faible, l'abattement d'un convalescent. Son ennui perçait parfois, jusque dans la manière dont il prenait les pinces pour bâtir inconsciemment dans le feu quelques fantasques pyramides avec des morceaux de charbon de terre. Quand il avait atteint la soirée, il éprouvait un contentement visible. Le sommeil le débarrassait sans doute d'une importune pensée. Puis, le lendemain, il se levait mélancolique en apercevant une journée à traverser, et semblait mesurer le temps qu'il avait à consumer, comme un voyageur lassé contemple un désert à franchir. Si Madame Claës connaissait la cause de cette langueur, elle s'efforça d'ignorer combien les ravages en étaient étendus. Pleine de courage, contre les souffrances de l'esprit, elle était sans force, contre les générosités du cœur. Elle n'osait questionner Balthazar quand il écoutait les propos de ses deux filles et les rires de Jean avec l'air d'un homme occupé par une arrière-pensée, mais elle frémissait en lui voyant secouer sa mélancolie et tâcher, par un sentiment généreux, de paraître gaie pour n'attrister personne. Les coquetteries du père avec ses deux filles ou ses jeux avec Jean mouillaient de pleurs les yeux de Joséphine, qui sortait pour cacher les émotions que lui causait un héroïsme dont le prix est bien connu des femmes et qui leur brise le cœur. Madame Claës avait alors envie de dire « Tue-moi et fais ce que tu voudras ». Insensiblement, les yeux de Balthazar perdirent leur feu vif et prirent cette teinte glauque qui attriste ceux des vieillards. Ses attentions pour sa femme, ses paroles, tout en lui fut frappé de lourdeur. Ces symptômes, devenus plus graves vers la fin du mois d'avril, effrayèrent Madame Claës, pour qui ce spectacle était intolérable, et qui s'était déjà fait 1000 reproches en admirant la foi flamande avec laquelle son mari tenait sa parole. Un jour que Balthazar lui sembla plus affaissé qu'il ne l'avait jamais été, elle n'hésita plus à tout sacrifier pour le rendre à la vie. « Mon ami, lui dit-elle, je te délie de tes serments. » Balthazar la regarda d'un air étonné. « Tu penses à tes expériences, reprit-elle. Il répondit par un geste d'une effrayante vivacité. Loin de lui adresser quelques remontrances, Madame Claës, qui avait à loisir sondé l'abîme dans lequel ils allaient rouler tous deux, lui prit la main et la lui serra en souriant. « Merci, ami, je suis sûr de mon pouvoir. » Lui dit-elle, « Tu m'as sacrifié plus que ta vie. À moi maintenant les sacrifices. Quoique j'aie déjà vendu quelques-uns de mes diamants, il en reste encore assez, en y joignant ceux de mon frère, pour te procurer l'argent nécessaire à tes travaux. Je destinais ces parures à nos deux filles, mais ta gloire ne leur en fera-t-elle pas de plus éclatante? D'ailleurs, ne leur rendras-tu pas un jour leurs diamants plus beaux ? » La joie qui soudainement éclaira le visage de son mari mit le comble au désespoir de Joséphine. Elle vit avec douleur que la passion de cet homme était plus forte que lui. Claës avait confiance en son œuvre pour marcher sans trembler dans une voie qui, pour sa femme, était un abîme. À lui la foi, à elle le doute, à elle le fardeau le plus lourd. La femme ne souffre-t-elle pas toujours pour deux? En ce moment, elle se plut à croire au succès, voulant se justifier à elle-même sa complicité dans la dilapidation probable de leur fortune. « L'amour de toute ma vie ne suffirait pas à reconnaître ton dévouement, Pépita, » dit Claës attendrie. À peine achevait-il ces paroles que Marguerite et Félicie entrèrent et leur souhaitèrent le bonjour. Madame Claës baissa les yeux et resta pendant un moment interdite devant ses enfants dont la fortune venait d'être aliénée au profit d'une chimère, tandis que son mari les prit sur ses genoux et causa gaiement avec eux, heureux de pouvoir déverser la joie qui l'oppressait. Madame Claës entra dès lors dans la vie ardente de son mari. L'avenir des enfants, la considération de leur père, furent pour elle deux mobiles aussi puissants que l'étaient pour Claës la gloire et la science. Aussi, cette malheureuse femme n'eut-elle plus une heure de calme quand tous les diamants de la maison furent vendus à Paris par l'entremise de l'abbé de Solis, son directeur, et que les fabricants de produits chimiques eurent recommencé leurs envois. Sans cesse agitée par le démon de la science et par cette fureur de recherche qui dévorait son mari, elle vivait dans une attente continuelle et demeurait comme morte pendant des journées entières, clouée dans sa bergère par la violence même de ses désirs qui, ne trouvant point, comme ceux de Balthazar, Une pâture dans les travaux du laboratoire tourmentèrent son âme en agissant sur ses doutes et sur ses craintes. Par moments, se reprochant sa complaisance pour une passion dont le but était impossible et que M. de Solis condamnait, elle se levait, allait à la fenêtre de la cour intérieure et regardait avec terreur la cheminée du laboratoire. S'il s'en échappait de la fumée, elle la contemplait avec désespoir. Les idées les plus contraires agitaient son cœur et son esprit. Elle voyait s'enfuir en fumée la fortune de ses enfants, mais elle sauvait la vie de leur père. N'était-ce pas son premier devoir de le rendre heureux? Cette dernière pensée la calmait pour un moment. Elle avait obtenu de pouvoir entrer dans le laboratoire et d'y rester, mais il fallut bientôt renoncer à cette triste satisfaction. Elle éprouvait là de trop vives souffrances à voir Balthazar ne point s'occuper d'elle, et même paraître souvent gênée par sa présence. Elle y subissait de jalouses impatiences, de cruelles envies de faire sauter la maison. Elle y mourait de mille maux inouïs. Le mulquinier devint alors pour elle une espèce de baromètre. L'entendait-elle siffler quand il allait et venait pour servir le déjeuner ou le dîner? Elle devinait que les expériences de son mari étaient heureuses et qu'il concevait l'espoir d'une prochaine réussite. Le mulquinier était-il morne, sombre? Elle lui jetait un regard de douleur. Balthazar était mécontent. La maîtresse et le valet avaient fini par se comprendre, malgré la fierté de l'une et la soumission rogue de l'autre. Faible et sans défense, contre les terribles prostrations de la pensée, cette femme succombait sous ces alternatives d'espoir et de désespérance, qui, pour elle, s'alourdissaient des inquiétudes de la femme aimante et des anxiétés de la mère, tremblant pour sa famille. Le silence désolant qui, jadis, lui refroidissait le cœur, elle le partageait sans s'apercevoir de l'air sombre qui régnait au logis et des journées entières qui s'écoulaient dans ce parloir sans un sourire, souvent sans une parole. Par une triste prévision maternelle, elle accoutumait ses deux filles aux travaux de la maison et tâchait de les rendre assez habiles à quelques métiers de femme pour qu'elles pussent en vivre si elles tombaient dans la misère. Le calme de cet intérieur couvrait donc d'effroyables agitations. Vers la fin de l'été, Balthazar avait dévoré l'argent des diamants vendus à Paris par l'entremise du vieil abbé de Solis et s'était endetté d'une vingtaine de mille francs chez les Protés et Chiffreville. En août 1813, environ un an après la scène par laquelle cette histoire commence, si Claès avait fait quelques belles expériences, que malheureusement il dédaignait, ses efforts avaient été sans résultat quant à l'objet principal de ses recherches. Le jour où il eut achevé la série de ses travaux, le sentiment de son impuissance l'écrasa. La certitude d'avoir infructueusement dissipé des sommes considérables le désespéra. Ce fut une épouvantable catastrophe. Il quitta son grenier, descendit lentement au parloir, vint se jeter dans une bergère, au milieu de ses enfants, et y demeura pendant quelques instants, comme mort, sans répondre aux questions dont l'accablait sa femme. Les larmes le gagnèrent, il se sauva dans son appartement, pour ne pas donner de témoins à sa douleur. Joséphine l'y suivit, et l'emmena dans sa chambre, où, seul avec elle, Balthazar laissa éclater son désespoir. Ses larmes d'homme, ses paroles d'artiste découragé, les regrets du père de famille, eurent un caractère de terreur, de tendresse, de folie, qui fit plus de mal à Madame Claès que ne lui en avait fait toutes ses douleurs passées. La victime consola le bourreau. Quand Balthazar dit avec un affreux accent de conviction « Je suis un misérable, je joue la vie de mes enfants, la tienne, et pour vous laisser heureux, il faut que je me tue », ce mot l'atteignit au cœur, et la connaissance qu'elle avait du caractère de son mari, lui faisant craindre qu'il ne réalisât aussitôt ce vœu de désespoir, elle éprouva l'une de ces révolutions qui troublent la vie dans sa source, et qui fut d'autant plus funeste que Pépita en contint les violents effets en affectant un calme menteur. « Mon ami, répondit-elle, J'ai consulté non pas Pierre Quint, dont l'amitié n'est pas si grande, qu'il n'éprouve quelque secret plaisir à nous voir ruinés, mais un vieillard qui, pour moi, se montre bon comme un père. L'abbé de Solis, mon confesseur, m'a donné un conseil qui nous sauve de la ruine. Il est venu voir tes tableaux. Le prix de ceux qui se trouvent dans la galerie peut servir à payer toutes les sommes hypothéquées sur tes propriétés et ce que tu dois chez Protès et Chiffreville, car tu as là sans doute un compte à solder. Claës fit un signe affirmatif en baissant sa tête dont les cheveux étaient devenus blancs. Monsieur de Solis connaît les AP et Dunker d'Amsterdam. Ils sont fous de tableaux et jaloux comme des parvenus d'étaler un faste qui n'est permis qu'à d'anciennes maisons. Ils paieront les nôtres toute leur valeur. Ainsi nous recouvrerons nos revenus, et tu pourras, sur le prix, qui approchera de 100 000 ducats, prendre une portion de capital pour continuer tes expériences. Tes deux filles et moi, nous nous contenterons de peu. Avec le temps et de l'économie, nous remplirons par d'autres tableaux les cadres vides, et tu vivras heureux. Balthazar leva la tête vers sa femme, avec une joie mêlée de crainte. Les rôles étaient changés. L'épouse devenait la protectrice du mari. Cet homme si tendre, et dont le cœur était si cohérent à celui de sa Joséphine, la tenait entre ses bras, sans s'apercevoir de l'horrible convulsion qui la faisait palpiter, qui en agitait les cheveux et les lèvres par un tressaillement nerveux. Je n'osais pas te dire qu'entre moi et l'absolu, à peine existe-t-il un cheveu de distance. Pour gazéfier les métaux, il ne me manque plus que de trouver un moyen de les soumettre à une immense chaleur, dans un milieu où la pression de l'atmosphère soit nulle, enfin dans un vide absolu. Madame Claës ne put soutenir l'égoïsme de cette réponse. Elle attendait des remerciements passionnés pour ses sacrifices et trouvait un problème de chimie. Elle quitta brusquement son mari, descendit au parloir, y tomba sur sa bergère, entre ses deux filles effrayées, et fondit en larmes. Marguerite et Félicie lui prirent chacune une main, s'agenouillèrent de chaque côté de sa bergère, en pleurant comme elle, sans savoir la cause de son chagrin, et lui demandèrent à plusieurs reprises « Qu'avez-vous, ma mère ? Mes pauvres enfants, je suis morte, je le sens. » Cette réponse fit frissonner Marguerite, qui, pour la première fois, aperçut sur le visage de sa mère les traces de la pâleur particulière aux personnes dont le teint est brun. « Martha, Martha !» criait Félicie. « Venez, maman a besoin de vous. » La vieille duègne accourut de la cuisine, et en voyant la blancheur verte de cette figure légèrement bistrée et si vigoureusement colorée, « Corps du Christ !» s'écria-t-elle en espagnol. « Madame se meurt !» Elle sortit précipitamment, dit à Josette de faire chauffer de l'eau pour un bain de pied, et revint près de sa maîtresse. « N'effrayez pas, monsieur, ne lui dites rien, Martha !» s'écria Madame Claës. « Pauvre chère fille » ajouta-t-elle, en pressant sur son cœur Marguerite et Félicie par un mouvement désespéré. « Je voudrais pouvoir vivre assez de temps pour vous voir heureuses et mariées. »« Martha, » reprit-elle, « dites à le mulquinier d'aller chez monsieur de Solis, pour le prier de ma part de passer ici. » Ce coup de foudre se répercuta nécessairement jusque dans la cuisine. Josette et Martha, toutes deux dévouées à Madame Claës et à ses filles, furent frappées dans la seule affection qu'elles eussent. Ces terribles mots, « Madame se meurt, monsieur l'aura tué, faites vite un bain de pieds à la moutarde », avaient arraché plusieurs phrases interjectives à Josette, qui en accablait le mulquinier. Le mulquinier, froid et insensible, mangeait assis au coin de la table, devant une des fenêtres par lesquelles le jour venait de la cour dans la cuisine, où tout était propre, comme dans le boudoir d'une petite maîtresse. « Ça devait finir par là, » disait Josette, en regardant le valet de chambre et montant sur un tabouret pour prendre sur une tablette un chaudron qui reluisait comme de l'or. Il n'y a pas de mère qui puisse voir de sang-froid un père s'amuser à fricasser une fortune comme celle de monsieur pour en faire des os de boudin. Josette, dont la tête coiffée d'un bonnet rond à ruche ressemblait à celle d'un casse-noisette allemand, jeta sur le mulquinier un regard aigre que la couleur verte de ses petits yeux éraillés rendait presque venimeux. Le vieux valet de chambre haussa les épaules, par un mouvement digne de Mirabeau impatienté, puis il enfourna dans sa grande bouche une tartine de beurre sur laquelle étaient semés des appétits. Au lieu de tracasser monsieur, madame devrait lui donner de l'argent. Nous serions bientôt tous riches à nager dans l'or. Il ne s'en faut pas de l'épaisseur d'un liard que nous ne trouvions. Eh bien, vous qui avez 20 000 francs de placés, pourquoi ne les offrez-vous pas à monsieur? C'est votre maître. Et puisque vous êtes si sûr de ses faits et gestes, vous ne connaissez rien à cela, Josette. Faites chauffer votre eau, répondit le flamand en interrompant la cuisinière. Je m'y connais assez pour savoir qu'il y avait ici 1 000 marques d'argenterie, que vous et votre maître les avez fondues, et que si on vous laisse aller votre train, vous ferez si bien de 5 sous si blancs qu'il n'y aura bientôt plus rien. Et monsieur, dit Martha survenant, tuera madame pour se débarrasser d'une femme qui le retient et l'empêche de tout avaler. Il est possédé du démon, cela se voit. Le moins que vous risquiez en l'aidant, mulquinier, c'est votre âme, si vous en avez une, car vous êtes là comme un morceau de glace, pendant que tout est ici dans la désolation. Ces demoiselles pleurent comme des madeleines. Courez donc chercher monsieur l'abbé de Solis. J'ai affaire pour monsieur, arrangez le laboratoire, dit le valet de chambre. Il y a trop loin d'ici le quartier des Skirchins. Allez-y vous-même. Voyez-vous ce monstre-là? Dit Martha. Qui donnera le bain de pied à madame? La voulez-vous laisser mourir? Elle a le sang à la tête. Mulquinier, dit Marguerite en arrivant dans la salle, qui précédait la cuisine. En revenant de chez monsieur de Solis, vous prierez monsieur Pierre Quint, le médecin, de venir promptement ici. Hein, vous irez? Dit Josette. Mademoiselle, monsieur m'a dit de ranger son laboratoire, répondit le mulquinier en se retournant vers les deux femmes, qu'il regarda d'un air despotique. Mon père, dit Marguerite à monsieur Claès, qui descendait en ce moment, ne pourrais-tu pas nous laisser mulquinier pour l'envoyer en ville? Tu iras, vilain chinois, dit Martha en entendant monsieur Claès, mettre le mulquinier aux ordres de sa fille.